Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Icône, premier numéro avec Nicolas Bedos. Merci Nicolas d'être le premier. Vous n'avez pas de promotion, donc c'est un luxe pour nous aussi de vous recevoir à ce moment-là. Vous êtes auteur, scénariste, réalisateur à succès. Vous venez de terminer un film qui sortira au mois de février, qui s'appelle « Alerte rouge en Afrique noire ». Vous préparez votre prochain film qui s'appelle « Mascarade ». Mais on ne va pas parler de ça, on va parler des icônes qui, dans votre vie, vous ont influencé et qui font ce que vous êtes aujourd'hui.
Oui, cette interview qui arrive à un été très particulier,
ouais,
où des icônes quasiment amoureuses sont parties les unes après les autres. Donc oui, quand vous m'avez proposé de faire cette émission, ça m'a paru malheureusement d'actualité.
Ouais. Donc le départ de votre papa, le départ de Jean-Loup Labadie, de deux papas différents, votre vrai papa et votre papa d'écriture. Ce sont les icônes de votre vie?
Oui, d'une certaine façon, bien sûr. C'est dans ce jardin-là que je suis allé jardiner, beaucoup de choses qui font ma vie au quotidien en ce moment, depuis quelques années maintenant. Si Jean-Loup n'avait pas existé, je pense que je ne serais pas la personne que je suis, ça c'est sûr.
C'est lui qui vous a donné l'envie d'écrire, tôt, très tôt.
Qui m'a surtout donné quelques principes précieux, qui valent tout l'or du monde, et toutes les inertités. Le soin qu'il apportait à la psychologie de ses personnages, au dialogue. Un film, c'est ou une pièce de théâtre d'ailleurs, c'est comme une sorte de mécanisme. Et Jean-Loup, quand je l'observais travailler avec ses cahiers d'écoliers, avec ses différents stylos de couleurs, chaque personnage, Romy Schneider, avait une couleur picolier, avec une couleur. Il travaillait comme un orfèvre, comme un artisan, avec beaucoup de modestie. Et là, ce qu'on appelle de façon un peu barbare la caractérisation des personnages, ce qui fait qu'on s'attache. Quand quelqu'un regarde un film, heureusement, il ne voit pas les heures de travail et de concentration qu'il faut à un scénariste, à un auteur, pour rendre l'histoire attractive et pour rendre les personnages attachants.
Vous avez repris ça, ces méthodes ?
Oui, parce que c'est un homme qui m'a transmis en tout cas une très très grande anxiété. Il n'était jamais content.
Mais vous l'étiez un peu de nature aussi, non ?
Voilà. Et d'ailleurs, cette arrogance qu'on me prête parfois, dissimule souvent de la trouille. Jean-Loup était un homme qui avait très très peur. Je me souviens de la façon dont il disait.
Mais il montrait pas d'arrogance, à l'inverse de ce qu'on peut vous reprocher parfois.
Non, par contre, il avait aussi un masque.
Ouais.
Cette espèce de ton un peu badin, un peu mondain, un peu spirituel, un peu parisien, cachait un homme extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux. Ça, c'est des choses qui m'ont ému chez lui. Il pouvait passer plusieurs mois sur l'adaptation d'une pièce américaine. Il avait toujours l'impression que ses scénarios n'allaient pas se monter. Enfin, il vivait dans la peur, Jean-Loup. Ouais. Jusqu'au bout, d'ailleurs. Il y a pas loin de là où... Bref, off.
Ouais. Et vous, avec le succès, vous avez toujours la peur ?
En fait, c'est pas la peur, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre... Je crois beaucoup aux vertus de l'obsession. La plupart des écrivains, des musiciens qui m'ont inspiré sont des gens obsessionnels. C'est pas facile pour l'entourage, c'est pas facile pour leurs producteurs, pour leurs comédiens, mais c'est vrai que je suis en tout cas, oui, je suis atteint de quelque chose d'assez obsessionnel. C'est-à-dire que je fais plus de versions que ce qu'on me demande. Et ce, jusqu'à l'orée du tournage.
Vous tournez beaucoup. Vous refaites,
Je refais beaucoup. Ouais. Puis je refais beaucoup le script parce que moi, je crois beaucoup aux vertus du scénario. Et c'est peut-être pour ça aussi que quelqu'un comme Jean-Loup a été si important. C'est que quand on regarde n'importe quelle œuvre de Jean-Loup, parce que ça a été justement un artiste extrêmement protéiforme, il s'est baladé un peu dans tout, je dirais, les moyens d'écrire, en fait. La seule chose, parce qu'on me demande souvent depuis qu'il nous a quittés, mais alors. C'est quoi le style d'Abadie ? Je dirais c'est l'exigence, tout simplement. Et une certaine délicatesse, une certaine forme d'élégance, associée à quelque chose qui ne m'est pas totalement étranger, c'est-à-dire un penchant pour les relations sentimentales, la description des relations humaines, conjugales. C'est vrai que je m'intéresse jusqu'à présent, je suis toujours beaucoup plus intéressé... En tant que lecteur, en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'auteur, à ce qui faisait la vie entre les êtres, nos sentiments fugaces ou définitifs.
On va parler de votre papa dans un instant, mais est-ce qu'il y a des femmes qui sont icônes, qui ont été icônes dans votre vie, au moins à un moment donné ?
Je viens de perdre. Ma marraine disait la limite, c'est presque une blague en fait. C'est votre nouvelle émission a quelque chose de morbide, Michel Denisot. Nous sommes d'ailleurs, à l'heure actuelle, nous sommes en direct du Père Lachaise. Et je vais m'allonger sur quelques tombes. Gisèle nous a quittés à un moment, je dirais, assez bouleversant pour l'éclairage que ça appelle sur son œuvre, sur son parcours. Elle est partie, si du moins on pouvait partir, pour moi elle n'est pas partie au bon moment, parce que c'était un moment où j'avais encore énormément de choses à partager avec elle, mais pour les gens, et je pense notamment aux femmes, qui s'arrachent en ce moment par exemple son livre d'entretien, qui devait sortir de toute façon, et il n'était pas censé être posthume, mais elle se réjouissait de la sortie de ce livre. Elle en parlait encore quelques semaines avant de partir. Ben voilà, il y a beaucoup de gens qui découvrent Gisèle Halimi, qui découvrent cette petite fille qui se bat dès l'enfance contre l'injustice de l'inégalité qu'il y avait dans le traitement de ses parents entre son frère et elle, et qui traverse des kilomètres au fin fond de la Tunisie pour accéder au savoir, à la culture, à la littérature, à l'école. Moi, j'ai été élevé par des gens absolument éblouissants, hein, qui ont fait preuve d'un courage, d'une abnégation que je n'ai jamais eu à prouver, que je n'ai jamais eu à avoir. Je suis voué à la modestie définitive. Il ne s'agit pas de déprécier ce que je fais, mais en revanche, je n'ai pas eu de difficulté à exprimer ce que je ressens, ce que je pense. À le diffuser, oui, parce que c'est difficile pour tout le monde. Mais pour revenir à Gisèle, de se battre pour aller à l'école, quand moi je me battais pour ne pas y aller, ça force l'admiration. Et puis ensuite, elle s'est fait insulter, elle s'est fait torturer, elle s'est fait gifler, elle s'est pris des molars dans la gueule, elle a défendu des causes qui n'étaient pas à la mode. Moi, ce que j'aimerais un jour, votre émission s'appelle Icône, et moi en ce moment je suis en train de préparer une série très ambitieuse qui est encore à l'état embryonnaire, où je veux partager, faire comprendre au public qu'avant d'être des gens qui sont devenus quasiment légendaires, il faut un courage inouï. Et je pense aussi bien à Claude Monet qu'à Stravinsky, en passant par Miles Davis jusqu'à Gisèle Halimi, dans des genres très différents. C'est trop facile rétrospectivement de se dire, bah voilà, le féminisme, tout ça. Et ce qui est passionnant dans vos métiers, c'est que vous, quand vous grattez, quand vous creusez, c'est un peu mon travail de scénariste en ce moment sur cette série, c'est qu'à la base de ça, il y a du courage. Et il y a de l'acrimonie, il y a du refus, il y a des années de solitude. Voilà, et en général, ce qu'on appelle après des icônes sont au départ considérés comme des nazes. Moi, je me souviens encore de la mère d'un ami d'enfance, d'un camarade de l'école, qui était d'ailleurs très sympa et pas plus ignare que quiconque, qui nous emmenait à l'école et qui voyait Gainsbourg comme un clochard, et qui voyait Coluche comme un raciste, et qui voyait Depardieu comme un con. Le temps fait son chemin, ensuite.
Est-ce qu'il y a dans votre vie personnelle, dans vos rencontres, je ne vais pas rentrer dans votre vie intime, mais des gens que vous avez rencontrés qui sont devenus, dont vous pouvez être tombé amoureux, et l'amour a fait de cette personne une icône?
Moi, j'ai eu la chance de fabriquer une forme d'iconographie amoureuse avec Doria Tillier à un moment. Ce qui nous a fait vivre d'ailleurs des sentiments très, très inédits, très troublants, puisqu'on a fini par se regarder, mais par le biais parfois de notre fiction commune. Mais avec Doria, le cinéma, le travail des dialogues nous a presque augmenté dans le regard qu'on avait l'un sur l'autre. Alors après, ça peut être presque une sorte de boulet embarrassant, parce qu'on se traîne comme ça, cette forme d'automystification, d'automythologie, qu'il faut après dépasser, puis revenir au réel, à la réalité.
Est-ce qu'on peut dire qu'au cinéma, vous avez recréé un peu ce que votre père a connu avec Belmondo, Marielle, en le faisant avec Dujardin, Canet?
La vérité est toujours un tout petit peu moins romantique que ce qu'on croit. À part Belmondo et mon père, c'était pas forcément la bande qu'on imagine. Il y avait la bande de Belmondo, mais mon père n'en faisait pas forcément partie. Il en a même un peu souffert au début. Marielle, Rochefort, tout ça, n'ont pas accepté. Je dirais que nous, entre guillemets, même si la comparaison est toute relative, mais la vraie histoire, elle est entre Jean Dujardin et moi, qui est une rencontre, là, pour le coup, totalement spontanée, intime, immédiate, amicale, c'est inexplicable. À un moment donné, il y a un type au bar et puis on a envie de passer du temps jusqu'à l'aube avec lui. Elle n'a plus rien à voir avec le métier, elle n'a plus rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que Jean, c'est quelqu'un avec qui je continuerai à échanger sur les choses de la vie, de la paternité, de l'amour, si demain on se retrouvait à être privé du métier qu'on veut faire. Ce sera peut-être le cas d'ailleurs avec ce qui nous arrive en ce moment. Mais voilà, donc c'est une prolongation de notre amitié. Pour le reste, c'est plus des cooptations, des sympathies. Mais je crois que l'amitié est un mot qu'il ne faut pas, je dirais, employer, et vous le savez, vous, parce que vous êtes un homme très pudique et très exact, il faut employer avec beaucoup de rigueur.
Votre père, donc, ça a été l'icône de votre vie.
Mon père, en revanche, vous parlez d'icône, Belmondo est très vite devenu, alors qu'il se connaissait depuis qu'il avait 17 ans, est très vite devenu un peu son idole. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, moi, je me souviens quand j'ai... le parallèle est faisable, parce que quand j'ai rencontré Jean, et qu'assez rapidement, il lui est tombé dit artiste sur la tronche, et qu'on s'est, s'était d'ailleurs croisé, et qu'il m'a embarqué dans ses valises pour aller
à Los Angeles,
à Los Angeles aux Oscars, j'étais devenu un peu groupie.
Ouais.
Je le regardais comme, comme j'ai parfois regardé certaines femmes fatales débarquant dans ma vie. J'étais un peu amoureux de lui, parce que je le trouvais non seulement cette extraordinaire séduction qui était la sienne, ce succès caricatural et très très exotique, parce que qu'est-ce que je foutais aux Oscars, moi, qui quelques mois plus tôt faisais quelques chroniques à la télévision. Et en plus, c'est surtout, il m'a beaucoup charmé par sa façon très enfantine et assez modeste de le vivre. J'ai rarement vu quelqu'un vivre des choses aussi troublantes avec autant d'élégance. Bref, et mon père regardait Belmondo un peu de cette façon-là. Quand tout d'un coup, il lui a donné la réplique sur le tournage d'À bout de souffle, en off, il y a des fois où, quand on regardait le film de Godard, papa me disait, bah, tu vois, là, c'est moi qui réponds à une phrase que je viens de lui dire en off, parce qu'il se planquait derrière le lit. Ça, c'est des choses dont papa parlait avec beaucoup de lueur dans les yeux. Alors qu'il en fallait beaucoup pour réveiller son admiration.
Ouais. Votre père, vous racontez que dans les années où vous étiez ado, votre père se battait pour la liberté d'expression. À l'époque, ça vous paraissait dérisoire. Et aujourd'hui, c'est différent.
Bah, moi, je suis extrêmement troublé que mon père ait disparu l'année qui, en tout cas, à ma connaissance, est la pire année pour la liberté d'expression qui soit. Je n'ai jamais... On ne va pas faire les choses dans le détail, mais vous... parce que ce serait trop long. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où elle est mise à mal. Et je suis presque soulagé que les derniers mois et les derniers temps, je dirais, papa était un peu ailleurs. Et je trouve ça presque tant mieux. Il n'était pas ailleurs, d'ailleurs, sur les choses de l'intime, sur nous, sur sa fille, sur sa femme.
Vous avez écrit de très beaux textes.
Mais c'est vrai qu'il avait pris beaucoup de champ avec l'actualité. Tout ça lui paraissait très étranger. Et je pense que s'il avait été totalement lucide, ça lui aurait paru encore plus étranger. J'ai l'impression d'avoir 175 ans, tellement je suis consterné par ce que j'observe.
C'est son retour, à votre avis ?
J'espère pas. J'espère qu'on va se battre. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est qu'on est, en tout cas, les gens que je croise dans la rue, les gens qui viennent me parler, mes amis, on est tous plus ou moins d'accord. Et quand on allume cette espèce de fenêtre du diable en ce moment, qui est le téléphone portable, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça, on ne lit que des conneries. Donc, il y a bien un moment où on va peut-être un tout petit peu, ou les gens, parce que c'est même pas moi, parce que de toute façon, dans l'époque actuelle, des gens comme vous ou comme moi, on est totalement discrédité, notre parole ne vaut plus grand-chose, à part faire plaisir à ceux qui sont déjà d'accord. Mais les adversaires, entre guillemets, de la liberté d'expression, de la satire, de la provocation, etc., ils s'en foutent de ce qu'on dit. Dans un violon. Donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, mais avec de l'émotion, c'est que les gens se révoltent, c'est que les gens, à l'occasion de la sortie de tel ou tel bouquin qu'on essaie de censurer, de telle ou telle blague qu'on sort de son contexte, de telle ou telle chanteuse ou interview à qui on va chercher des noises et qui fout en l'air une promo et tout un discours beaucoup plus large, je rêve d'un moment où on va tout le monde va se serrer les coudes et dire ça suffit, arrêtez.
Ça demande de la solidarité.
Bah, ça demande, ouais. Ça demande un, ça demande des principes,
et
ça demande
peu, et des voix assez fortes.
Oui, 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 des voix assez fortes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes. Il y a quelques journaux que je, d'ailleurs, à qui j'envoie des lettres de remerciement, comme un gamin, ouais. Comme un fan. Je remercie tel ou tel journaliste régulièrement.
Ouais. Je
trouve l'adresse électronique de tel ou tel et je dis merci. Merci pour qui ? C'est pas pour moi. Mmh. C'est pour ces années de combats qui vont de Molière à Voltaire, en passant par Coluche, des proches, et accessoirement, quelqu'un comme mon père, qui... toute sa vie, m'a dit « Écris pour ceux qui te comprennent, pas pour ceux qui te comprennent pas. Ne va pas tout d'un coup te poser des questions. » Parce que quand je faisais de la télévision, par exemple, il m'arrivait, moi, de douter, parce que ça commençait déjà un peu. Vous êtes bien passé pour le savoir. On n'avait déjà pas totalement le droit de tout dire, parce qu'il y avait des rapports de pression, d'influence, notamment avec certains hommes politiques. Avec ça. Mais c'était encore autre chose, c'était le pouvoir. Là, c'est pire, c'est les gens. C'est les gens, et c'est les jeunes même. Ouais. Moi, ça m'amusait quand je recevais un coup de fil énervé de tel ou tel président de la République, ouais. qui tout d'un coup hurlait sur François-Olivier Gisbert ou sur telle productrice qui avait osé, ou sur le patron de France Télévisions, des choses comme ça. Moi, à l'époque, on était plutôt dans ce, je dirais, ce rapport de force-là. Il y avait un truc, je dirais, tandis que là, c'est plus les puissants. Macron est presque plus en opposition à ce qu'on appelle la cancel culture, etc., que des jeunes gens de 20 ans que j'ai croisés cet été et qui tenaient à ma table des propos qui me donnaient envie de chialer. On me disait « Ah oui, mais après tout, à la limite, peut-être qu'il ne faut plus rire de ça, qu'il ne faut plus parler de ça. » On est en train, en ce moment, ça va dans tous les sens, mais je suis ému, moi. C'est pour ça que je parle de ça, parce qu'on était tous dehors au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et c'est en ce moment le procès de Charlie Hebdo que je suis... quotidiennement. Mais mon Dieu, on n'est plus Charlie du tout, ils ne sont plus Charlie du tout. Le droit au blasphème, c'est terminé. Tout est prétexte à un moment donné à se prendre une volée de bois vert qui pousse à une justification qui rend con soi-même. Parce qu'on devient bête. Parce qu'il n'y a rien de plus volatile qu'une vanne. Il n'y a rien de plus volatile qu'une œuvre d'art. Et puis en plus, moi, je vais vous dire un truc, Michel, je pense qu'il faut continuer à parfois se tromper. Je crois qu'une bonne vanne, entre guillemets, voire même celle qui dure en général, c'est celle qui flirte avec le fait d'être ratée. Parce que si elles sont balisées, si elles sont évidentes, elles ne vont pas gratter quiconque, elles ne vont pas surprendre quiconque, elles ne créeront pas le plaisir qui fait qu'elles sont nécessaires à notre quotidien. C'est nécessaire dans notre quotidien d'être choqué par un roman. Moi, je me souviens d'une préface absolument admirable de Bertolt Brecht, pour faire le malin en citant quelqu'un de très chic, qui est aujourd'hui voilà, sur les étagères des grands intellectuels. Et Bertolt Brecht disait qu'il décrivait le monstre, c'est-à-dire le fascisme, le racisme, la misogynie, la violence physique, l'homophobie, tout ça, parce qu'en décrivant des personnages qu'il était, il pensait que c'était le meilleur moyen pour que la société ne le soit pas. C'est-à-dire que c'est mieux que ça reste des personnages de fiction plutôt que ça s'invite dans nos cerveaux malades. Et, le jour où on ne pourra plus du tout montrer le mal à travers la fiction ou à travers l'humour, ben, je crains. C'est pas que je crains, c'est que beaucoup de psychologues, de sociologues, de philosophes pensent que, du coup, il faut bien qu'il se niche quelque part, ce mal, ces névroses qu'on porte en nous, et qu'on réfrène par, justement, le biais de la littérature et tout ça. Eh ben, il va se nicher où, le mal ? Il va se nicher peut-être dans nos actes. Une blague ou une chanson n'ont jamais tué personne. En revanche, il y a des types qui ont tué des gens.
Merci beaucoup.
De rien.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.